Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, mardi 27 mai 2025. Vous écoutez la quotidienne d'infos de Syllab. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique ou le buzz, je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça, mais le président de la République a reçu une gifle de son épouse devant les caméras du monde entier. Ça s'est passé dimanche alors que le couple présidentiel était en déplacement au Vietnam. Alors, vu que je ne travaille pas pour Voici ou pour Gala, les détails de la vie sentimentale du couple Macron, ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne sais pas vous. En revanche, il y a un élément dans cette histoire qui, à mon sens, mérite d'être soulevé. Et cet élément, c'est la réaction de l'équipe de com de l'Élysée. Parce que, dans un premier communiqué, les chargés de com du chef de l'État ont d'abord totalement démenti la véracité des images. On évoque alors une intervention de l'intelligence artificielle de façon officielle. Sauf que voilà, un journaliste de la très réputée agence américaine Associated Press a aussi filmé la scène. Rétropédalage de l'Élysée qui admet que l'image est vraie, mais que ce n'était pas une gifle, mais une chamaillerie entre amoureux, et qui fait son mea culpa affirmant n'avoir pas été assez scrupuleux dans la vérification des faits. Alors que la présidence est assaillie de fausses informations provenant notamment de comptes pro-russes, on a parlé ici même du prétendu sachet de cocaïne de Macron qui n'était qu'un simple mouchoir, ce manque de professionnalisme au mieux, ce mensonge éhonté au pire, mérite en tout cas que l'on s'y attarde. Cette affaire ne va en tout cas pas aider à améliorer la crédibilité des pouvoirs publics, aux yeux des citoyens et des citoyennes. Le flash de Romain.
Journée de tension à Jérusalem. De nombreux Israéliens et Israéliennes nationalistes ont défilé dans Jérusalem-Est hier à l'occasion des célébrations annuelles marquant l'occupation par Israël de Jérusalem-Est. Cette partie de la ville fait partie des territoires palestiniens occupés par l'État hébreu. La journée a donné lieu à des violences contre la population palestinienne. Des militants et militantes des droits humains israéliens et israéliennes ont aussi été pris et prises à partie. Enfin, le ministre israélien de la Sécurité nationale s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, administrée par la Jordanie. La France a condamné une nouvelle provocation inacceptable. Un simple test sanguin, c'est ce qui suffirait à déceler la maladie d'Alzheimer grâce à un nouveau traitement. Une demande de mise sur le marché vient d'être déposée en Europe. Ce test, conçu par une firme japonaise, est déjà utilisé aux États-Unis avec des résultats positifs. Ce traitement viendrait alléger les techniques de diagnostic actuelles pour les rendre moins invasives. Aujourd'hui, il faut à la fois des tests cognitifs, des IRM et parfois même une ponction lombaire pour diagnostiquer la maladie. Emmanuel Macron critique à l'encontre de Donald Trump. Alors qu'il est en déplacement au Vietnam depuis hier, Emmanuel Macron a donné un discours aujourd'hui à l'université d'Hanoï. En parlant des droits de douane, il estime que la première économie du monde ne respecte pas les règles de l'Organisation mondiale du commerce et critique les allers-retours du président américain sur le sujet. Je cite « Elle met des tarifs qui changent selon les matins où on se réveille ». Ces critiques interviennent alors que le président français cherche à implanter l'économie française en Asie du Sud-Est. Hier marquait le premier jour de l'examen du projet de loi sur les contraintes agricoles. Ce texte envisage notamment la réintroduction des néonicotinoïdes, des insecticides dangereux interdits depuis 2018, mais le débat s'est retrouvé empêché à l'Assemblée nationale. Et Nora, que s'est-il passé ?
Eh bien, un coup de poker que personne n'a vu arriver. Vers la fin d'après-midi, le député Les Républicains Julien Dive, alors rapporteur du texte, dépose une motion de rejet, un type de motion qui vise à faire rejeter un texte de loi avant même son examen dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'ambiance déjà tendue s'est alors agitée et les discussions ont été brèves. Soutenue par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard et grâce à une coalition du centre et de la droite, la motion a été adoptée à 274 voix contre 121. Si la manœuvre peut étonner, elle permet désormais à la proposition de loi d'aboutir plus tôt et aux modifications possibles d'être plus mince. Parce que oui, le texte s'évite désormais les débats de l'Assemblée nationale pour être étudié en commission mixte paritaire où ne siègent que 14 députés contre les 577 que compte l'hémicycle. Pour la députée insoumise Mathilde Panot, la motion de rejet prend l'allure d'un nouveau 49-3 en empêchant tout débat. Une critique partagée par les députés écologistes qui dénoncent un détournement des outils démocratiques de l'Assemblée nationale. Deux partis qui ont déposé plus de 3000 amendements d'opposition à cette proposition de loi et brandi dans l'enceinte de l'hémicycle le nom des victimes de ces pesticides. Un engagement qui a notamment valu à la députée insoumise d'Ille-et-Vilaine Mathilde Ignet, également ancienne ouvrière agricole, d'être victime d'intimidation de la part de la FNSEA. Un regroupement de soutien à l'initiative de la Confédération paysanne a eu lieu hier devant sa permanence à Guipry-Messac. Le texte sera donc maintenant étudié à la mi-juin. Et au regard des forces politiques présentes, sur les 14 députés, seulement 4 sont de gauche, il y a peu de chances que la Commission retienne, comme le souhaite la gauche, le caractère écocide de cette proposition. Députés comme associations ont assuré continuer de faire pression pour empêcher ce retour en arrière et un rassemblement a notamment eu lieu ce midi sur la place des Invalides à Paris.
Merci Enora. L'immigration plutôt que la reconstruction. Le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte est voté aujourd'hui au Sénat. Le texte fait grincer des dents. 6 mois après le passage du cyclone Chido à Mayotte, ce texte est censé apporter une réponse aux défis majeurs de l'île. Mayotte est le département le plus pauvre de France. De nombreuses propositions de ce projet s'attardent sur la restriction de l'immigration. Les élus mahorais et mahoraises dénoncent un volet social passé au second plan. Saïd Omar Wali, sénateur de Mayotte, déclarait à RFI, je site, on parle peu de l'eau, de l'éducation, du manque de classe et des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Depuis fin mars, plusieurs des ateliers couture hebdomadaires de la ville s'affairent à la réalisation des costumes pour les danseurs et danseuses du défilé fantastique. Les ateliers concernés sont ceux du Carrefour 18, du T-Blonde, du CPB Lambrel, mais aussi ceux de Blown Up. De nombreux et nombreuses bénévoles participent dans l'ombre à cette grande déambulation qui aura lieu le 14 juin, organisée sous la direction de Bruce Schiffer et du Triangle.
Dans une salle à l'étage, une dizaine de couturières bénévoles sont entourées de fils, tissus et machines à coudre. Ça discute, ça travaille, ça vit.
Je m'appelle Stéphanie Gicchio, je suis costumière accessoiriste et d'autre part je suis scénographe pour le collectif Zarmine. On travaille sur les festivals, notamment en déco.
Stéphanie est la coordinatrice des ateliers couture du défilé fantastique. Elle évoque en quoi consistent ces fameux costumes et ses inspirations.
Alors c'est inspiré des couleurs de l'affiche qui sont rouge, verte et jaune. Et on a intégré du blanc et du noir. Et puis moi j'ai dessiné des choses aussi, des trucs assez graphiques et surtout des modèles très très simples pour que ça puisse être fabriqué par le plus grand nombre. Parce qu'il y a des couturières de plein de niveaux différents. Donc il fallait que ce soit facilement réalisable et puis surtout rapide parce qu'il faut fournir presque 500 pièces. Donc il fallait trouver quelque chose qui se fasse facilement et rapidement. Après Bruce il m'a donné carte blanche sur les modèles. Donc je suis partie sur le t-shirt, la matière du jersey parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la mode street et c'est assez confortable. Et puis s'il fait chaud ou s'il fait froid ça va. Parce que bon, on va faire beau, mais au cas où quand même. Sinon, bah, je me suis inspirée un peu de l'affiche, un peu de ce que je vois dans la rue, un peu de la culture hip-hop. Et puis voilà, c'est de l'observation aussi de tous les jours, quoi. Et en bas, bah, j'ai demandé aux gens de venir avec un jean parce que l'idée, c'est qu'il y ait quand même une forme d'unité. Tous les t-shirts ne sont pas tous différents, mais il y a plusieurs déclinaisons, ce qui fait qu'il y a à peu près 8 modèles différents.
Ouais, c'est ça, il faut 30. Donc, t'as qu'à couper une bande de 32 cm, comme ça, t'as un petit peu de marge.
Edith, fidèle bénévole à l'atelier couture du Carrefour 18, explique la répartition des tâches.
Certaines personnes qui font donc la découpe, après d'autres qui font le montage, après d'autres comme nous qui cousons. Et après, ben, si vous voulez, il y a la finition, on rentre les fils. Et puis voilà.
Pour elle, s'engager dans le projet du défilé fantastique permet de participer à la vie du quartier.
Nous, bénévolement, je trouve que c'est bien de pouvoir aider un peu le quartier. Puis bon, ça donne un peu de gaieté, c'est surtout ça. Hein.
Françoise, une autre bénévole, partage son avis.
Ça permet de faire une activité commune hein, et puis d'apprendre autre chose quoi, et de participer à la vie du quartier.
32. À la pointe, là, tu veux ?
Non, oui, tu as raison. Ouais.
Les couturières ont encore quelques jours devant elles pour finir les 455 costumes. Ils devront être prêts pour le 3 juin, date de la générale. Pas de souci à se faire, puisque la motivation est toujours là, et c'est même un challenge entre les bénévoles à celle qui en coudra le plus.
Et le défilé fantastique, c'est le 14 juin, donc le départ se fera à 16h rue de Suède et finira au Triangle, avec une grande fête et un apéro fantastique. Merci Gwen pour ce reportage. un député européen en visite à l'université de Rennes. Demain, le député européen Place Publique Thomas Pellerin-Carlin, membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, sera à Rennes. Il visitera le campus, engagé dans un grand plan de rénovation de ses bâtiments. Il interviendra également à 18h30 en réunion publique, salle du jeu de paume, sur le thème « L'Europe et les défis de la transition écologique ». L'hôtel de Rennes Métropole expose la justice des années sombres. L'association rennaise Champ de Justice propose une exposition des histoires de détenus de la prison Jacques Cartier entre 1940 et 1947. Cette exposition était jusque-là exposée au Parlement de Bretagne. Elle est le prolongement d'un livret édité par l'association sur le sujet. Des histoires souvent bouleversantes à retrouver donc à l'hôtel de Rennes Métropole à partir de vendredi.
Merci Romain, tu restes avec nous parce que tu as un invité ce soir.
Et oui.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Barbe bien fournie et anneau à l'oreille, Romain, tu reçois ce soir Maxime Rouen, coordinateur de Jazz à l'Harpe.
Bonsoir Maxime.
Bonsoir, c'est vrai qu'on a un petit air tous les deux, finalement avec la barbe et les lunettes et tout.
Alors vous êtes là pour parler du festival Jazz à la Harpe, ça commence demain et ça dure jusqu'au 8 juin, c'est organisé par l'association Trois Regards, on peut peut-être commencer par ça, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association, son rôle et ce qu'elle fait?
Oui, alors bah, Trois Regards c'est les voisins déjà, on est juste à côté, on est un petit peu au nord de Villejean, entre Villejean et Beauregard. Trois Regards c'est trois équipements, l'équipement historique qui est ouvert depuis 79 qui est la ferme de la Harpe, et depuis un peu moins longtemps, depuis 2014, on s'occupe aussi de la maison de quartier de Beauregard qui s'appelle Le Cadran et de la maison du parc qui est un lieu où on reçoit de la petite enfance, et on travaille autour de la parentalité. Voilà, la ferme de l'Harpe en tant qu'équipement le plus ancien, il est plutôt connu pour les aspects musique, des salles de répétition, des cours de musique et aussi les ateliers techniques, notamment le garage associatif où on a pas mal d'étudiants qui viennent bricoler leur bagnole qui est encore en panne.
Donc du coup, c'est la 24e édition de ce festival. Comment on fait pour qu'un festival dure aussi longtemps ?
Eh bien, comment on fait ? Alors c'est vrai qu'il faut un peu de courage, il faut en vrai du soutien de la ville qu'on a toujours eu. En fait, on a finalement peu de soutien, mais on a un soutien sans faille de la ville. On s'oriente aussi vers beaucoup de groupes locaux, on est assez malin, on a quelques copains dans le monde de la musique pour réussir à avoir des super artistes de renommée internationale des fois à vraiment pas cher. Voilà, et puis c'est vrai qu'on y arrive en plus en étant relativement accessible. Le festival sur 8 jours, il n'y a que 2 soirées payantes, le reste de la programmation est totalement gratuit, ça veut dire qu'on peut faire 100% du festival pour 24 euros quand on est étudiant, voilà, par exemple.
C'est important cette idée de rendre le festival accessible?
Ouais, c'est important et c'est aussi on cherche beaucoup à aller au contact des habitants sur le quartier. En fait, nous, notre boulot c'est pas d'être programmateur musical, notre boulot c'est d'être animateur. Le festival c'est une semaine dans l'année, tout le reste de l'année nous on travaille au contact des habitants de Beauregard et un petit peu de Villejean aussi. Donc voilà, le boulot c'est vraiment d'aller sur l'espace public à la rencontre des habitants, de donner un peu de joie, d'animer un peu le quartier. Et bah, c'est ce qui fait qu'on arrive à bricoler pas mal de petites choses très sympas et presque à faire en sorte que le quartier de Beauregard devienne le quartier du jazz. Ça, c'est peut-être un rêve, mais qui commence à se réaliser.
Excellent. Depuis le début, vous parlez beaucoup de bricole, de bidouille. C'est un festival qui est... Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport... par rapport à ce qui est budget, tout ça, ou c'est un peu juste l'idée générale?
Non, il y a des difficultés. On s'est pris des énormes bananes il y a quelques années. Hein. On s'est déjà pris du moins 20 000, du moins 25 000. À l'époque, on était beaucoup plus gros. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être un plus petit festival. Pour nous, une jauge complète, c'est 250 personnes. Alors, on est loin du Hellfest. Mais on table, nous, dans un budget prévisionnel sur des 140-150 entrées. Quand on fait 32 moins, c'est pas un drame, la soirée est peut-être un peu moins animée, mais tu perds pas non plus, voilà, 30 personnes en moins à 12 euros, c'est pas là-dessus que repose l'équilibre d'un festival. Donc on arrive toujours à... Alors on gagne jamais d'argent, on en perd toujours un petit peu, mais on en perd le moins possible, et puis on considère aussi qu'on peut mettre une partie de notre budget aussi, parce que ça fait parler de l'association, et puis c'est aussi notre boulot d'animer le quartier, tout simplement. Donc on a plus d'atouts que d'autres festivals moins ancrés sur des quartiers ou pas ancrés sur des quartiers.
Ok. On peut peut-être commencer à revenir sur la programmation avec la première soirée dès demain. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre déjà de cette première soirée ?
Alors première soirée particulière parce que ce sera un concert dans l'atelier mécanique alors qu'on a une salle de concert 10 mètres plus loin qui est tout aménagée.
Parce que si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire ?
Mais oui, on voulait faire le lien justement avec les activités techniques qu'on a beaucoup à la ferme de la Harpe parce qu'il y a énormément de mécaniciens amateurs qui finalement écoutent du jazz toute la journée parce qu'il y a des répétitions de jazz toute la journée. Il y a aussi énormément de musiciens de jazz qui ont des bagnoles un peu pourries et qui du coup les entretiennent à l'atelier mécanique, donc voilà le lien il était évident pour nous. Et c'est aussi parce que, alors c'est une soirée gratuite, c'est une soirée où on va mettre les barbecues en route et ils sont à libre disposition des étudiants, des habitants qui veulent passer, donc il n'y a plus qu'à venir griller. Voilà, il fait beau a priori, les conditions météo ont l'air de bien s'améliorer pour demain, donc voilà, concert demain de Mystery Swing Band à l'atelier mécanique à partir de 19h.
Est-ce que dans ce fait de faire ce concert à l'atelier mécanique, il y a une volonté de un peu sortir le jazz des salles? Le jazz, il a toujours une image quand même un peu salle un peu tamisée, un peu des gens un peu élitistes. Est-ce qu'il y a toujours ça aujourd'hui pour le jazz ou ça change un peu?
Bah, moi, je dirais que non, mais c'est vrai que là, c'est la 24e édition. Moi, je suis là depuis le début, ça fait 27 ans que je suis là. Et je suis arrivé, j'aimais pas le jazz. Moi, j'avais l'image du jazz poussiéreux et effectivement d'une musique qu'on écoute dans une salle sombre, assis sur des fauteuils en velours rouge. C'est vraiment l'image que j'en avais. Et je me rappelle d'un des premiers articles Ouest France qu'on a eu au tout début du festival, où on s'embêtait à faire des belles choses, des choses bien, et le journaliste en bilan parle d'une grande kermesse du jazz. Et nous, on était dégoûtés, quoi. Mais le mec, mais kermesse, non mais attends, quoi. Et en fait, je le remercie encore aujourd'hui parce que c'est lui qui nous a donné la direction. Et là, oui, c'est complètement assumé, c'est une kermesse du jazz, et on est bien mieux dehors sur un parking d'atelier mécanique à écouter du jazz que dans une salle adaptée pour ça, finalement. Il y a les petits oiseaux à côté, les barbecues, quoi de mieux.
Ok. Pour revenir sur la programmation, du coup, il y a deux soirées principales sur le festival. Et d'abord, il y a celle de vendredi prochain, du coup, soirée jazz et classique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Ouais, alors tout à fait. Jazz et classique, on a l'occasion de recevoir un très très grand monsieur qui était parmi nous il y a 15 jours d'ailleurs à la fête du printemps. Et quand je parlais de kermesse, ce monsieur-là, il a joué avec le Big Band universitaire de Rennes 2. Donc ça tombe bien, on peut en parler ici. Et le Big Band a invité monsieur Ricky Ford, qui n'est autre que le saxophoniste de Duke Ellington. Quand même. Et on a fait jouer le Big Band entre deux châteaux gonflables où il y avait plein de gamins en train de crier et de faire du toboggan. Donc voilà, là aussi, c'est une image qui nous plaît beaucoup sur le quartier. Et donc Ricky Ford y revient cette fois-ci en duo avec Florence Ribaud, qui est une ancienne enseignante du Conservatoire de Rennes, me semble-t-il. Florence Ribaud, qui est médaillée d'or du Conservatoire de Paris. Ricky Ford, qui lui est médaillé d'or du Conservatoire de. Je ne sais plus où.
Quelque part.
Et en fait, il revisite 300 ans d'histoire de musique classique, notamment avec du Wagner et du Brahms. Ricky a réarrangé l'intégralité du répertoire, l'interprète au sax ténor, ce qui n'était pas jouable à l'époque parce que ça n'existait pas. Et en fait, on se rend compte que le jazz finalement existait avant que le jazz existe. C'est très bizarre, mais voilà, le jazz, on en retrouvait déjà des bribes de jazz dans la musique classique il y a 300 ans.
Okay. C'est courant ça de mélanger un peu ces deux genres ?
Alors c'est totalement la culture jazz. Alors ces deux genres-là en particulier, pas forcément, je pense que ça se fait peu. Mais le jazz a toujours été se mélanger avec toutes les autres musiques de partout dans le monde.
Maintenant pour la soirée du samedi, là on est du coup sur quelque chose de plus new soul et blues. Alors pareil, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée ?
Alors là on reçoit Catherine Merilly, qui est une ancienne rennaise qui est partie faire carrière à Paris, qui est d'origine estonienne. Qu'on avait repéré sur Rennes, notamment par ses participations dans différents orchestres de jazz. Là, elle revient avec son premier album, qui est un album New Soul. Ils arrivent en quintette. C'est hyper intéressant, hyper frais. On aura tout Roots aussi sur cette soirée-là, duo de Roots. Alors, c'est du blues, tout ce qu'il y a de plus Roots. C'est guitare, grosse caisse et chant uniquement. Et enfin, on a la chance aussi d'avoir Bonnefield en septet. Alors là encore, grand monsieur, c'est le trompettiste qui a été aux côtés de Maceo Parker, de Lucky Peterson, de Bootsy Collins et encore bien d'autres, et qui lui aussi est en sortie d'album. Et donc on terminera la soirée avec Bonnefield en septet.
Ces deux soirées, elles se terminent aussi par des jam sessions. Alors comment ça se passe? Je vois que c'est marqué que ça finit à 3h du matin.
Eh bien encore, on s'est décidé cette année à finir plus tôt, parce que des fois ça finissait à 6 ou 7 heures, mais quand même on a du boulot le lendemain. Donc on essaye de faire fin de la musique à 2h, 2h30, et on ferme à 3h, on va se coucher, et on raccompagne au bus.
C'est le plan en tout cas.
C'est le plan en tout cas. Alors effectivement, on a toujours voulu qu'il y ait cet esprit de partage. Le festival en fait, il vient d'ici. L'histoire, c'est qu'en 1989 se crée le club jazz de la ferme de la Harpe, qui existe encore aujourd'hui, qui est le plus vieux club jazz de Rennes, puisque tous les jeudis soirs, on peut partager la scène avec différents musiciens et musiciennes de jazz de 21h30 à 1h du matin à peu près. Pour fêter les 10 ans du club jazz, on décide de faire une grosse fête avec une dizaine de groupes qui s'étaient rencontrés grâce au club jazz. C'est un succès, et de là naît le festival Jazz à l'Harpe l'année suivante, en se disant « faut qu'on fasse perdurer, c'est super ». Et donc le festival, il vient vraiment du bœuf, des jams comme disent les jeunes, ils disent les bœufs. Et tant qu'on a souhaité toujours garder cette idée de partage de scène, ça permet aux musiciens amateurs, jeunes ou moins jeunes, de croiser le fer avec des trompettistes de renommée internationale ou des grands saxophonistes. Donc on termine toujours les soirées par des bœufs.
Ok, parce que ouais, ce rapport à la jeunesse et à l'éducation dans le jazz... Vous l'avez, j'ai vu qu'il y avait des cours et des ateliers toute l'année. Et d'ailleurs, pour le festival, il y a eu une audition des élèves, c'est mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Ça se passe au cadran. Alors c'est quoi? C'est en fait c'est la fin de leur parcours?
Alors c'est la fin de leur parcours en espérant qu'ils reviennent la saison suivante, ce qui est le cas pour la plupart, on ne les traumatise pas trop. Mais oui, c'est effectivement tout le travail d'une année qui est présenté en fin d'année. C'est assez classique de faire des auditions en fin d'année dans les écoles de musique. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas une école de musique, on est une association dans laquelle on fait de la musique. C'est un petit peu différent, mais finalement on fait quand même le même métier. Mais c'est important, que ce soit pour les gamins ou même pour les plus anciens, d'arriver sur scène à un moment donné, puis de montrer tout le travail qu'on a réalisé pendant l'année. C'est hyper, hyper flatteur. Bon, sauf quand on se plante devant tout le monde, et là, forcément, là c'est la loose.
Et je me demandais, par rapport au jazz, est-ce que à Rennes, il y a des dynamiques particulières dans le genre? Est-ce qu'il y a des spécificités ou ça s'inscrit dans quelque chose de plus global?
Par rapport à d'autres villes, malheureusement, je n'ai que trop peu voyagé parce que mon employeur me fait beaucoup trop travailler, donc je n'ai pas le temps de me promener ailleurs. Oui, mais non, de ce que j'en vois, on disait souvent que pour faire carrière dans le jazz, il fallait forcément monter à la capitale, à Paris. On a quand même beaucoup de musiciens sur Rennes qui sont la preuve vivante, musiciens et musiciennes d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes aussi, qui sont la preuve vivante qu'on peut rester à Rennes et vivre de sa musique sans aucun problème. Rennes est quand même, je pense, une des villes les plus dynamiques en termes de jazz, avec Nantes. C'est vrai que Nantes aussi est très dynamique. La proximité des deux fait que ça s'auto-alimente aussi, voire ça se tire la bourre. et j'ai quand même l'impression que le jazz vit très bien à Rennes. Il y a quelque chose qui m'a surpris, moi, il y a quelques années, qui me surprend plus, c'est aussi l'âge des musiciens. Je reviens à ce qu'on disait au départ, le jazz, musique de vieux. Moi, quand je vois des jeunes qui arrivent à 16 ans, qui jouent déjà, mais comme des demi-dieux du jazz... Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu de leur jeunesse en fait? Ils sont restés dans leur chambre à bosser des partoches. Peut-être, mais c'est assez impressionnant à quel point les jeunes ont assimilé cette musique-là très rapidement. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est souvent une musique virtuose quand même. Alors, faut pas que ça fasse peur justement, faut pas se dire que le jazz est une musique virtuose. Le jazz, c'est une musique de partage, c'est une musique hyper vivante. Mais à Rennes, oui, le jazz a carrément sa place. Oui.
Trop bien. J'ai vu, il y avait aussi un autre événement... Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre du festival, mais il y a une exposition au cadran aussi qui s'appelle Portrait Jazz.
Oui, tout à fait.
Donc c'est depuis début mai, je crois, et on peut la voir jusqu'à début de la première semaine de juin.
C'est ça, oui.
Alors c'est quoi en fait cette expo?
Alors c'est la suite déjà d'un premier volet d'exposition qui a été réalisé l'an dernier. Là encore, nous, notre boulot, c'est de faire de l'animation, c'est pas de faire de la programmation. Et le jazz est quand même méconnu par une partie de la population. En tout cas, les grands noms du jazz sont assez méconnus. Et l'idée était qu'on a notre collègue Charlotte, qui est médiatrice culturelle, qui rentre en contact avec les artistes qu'on programme et qui leur demande de lui parler d'un musicien et d'une musicienne de jazz qui aura marqué sa carrière, son évolution. Ça nous permet de faire des portraits, surtout ça nous permet de parler de jazz et de parler histoire du jazz avec des gamins notamment, ou avec nos seniors qui sont le mercredi après-midi dans le hall, et chacun réalise des petites fresques, du collage, de la peinture, en écoutant du jazz, c'est un impératif, et en plus en découvrant la vie d'un musicien ou d'une musicienne. À parité totale, puisqu'on a voulu qu'il y ait absolument autant de femmes que d'hommes. C'est un vrai sujet aujourd'hui, et il faut le défendre. Donc l'exposition-là est effectivement à voir, et c'est une expo avec du contenu additionnel. Il y a un petit QR code qu'on flash, on arrive sur une page où on a du contenu additionnel, des photos d'artistes, des vidéos, des présentations d'artistes, etc.
Le côté paritaire dans le jazz aujourd'hui, ça donne quoi? Est-ce que on y arrive ou c'est très compliqué?
Mais on n'y arrive carrément pas, carrément pas. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas fait de choix drastique comme a pu le faire le Jardin Moderne qui vise la parité intégrale. On cherche, nous, à programmer des femmes. Mais on en programme, mais quand on reprend le chiffre N-1, qu'on fait le bilan de l'année, et qu'on se dit, même en faisant des efforts, on arrive avec une proportion de 10% de femmes en fin d'année. Enfin non, on n'y est pas du tout, c'est juste la folie, quoi. Donc il faut continuer, je ne sais pas s'il faut viser la parité, mais en tout cas, il faut continuer à travailler sur ce sujet-là, et à mettre en avant, à mettre en valeur les femmes qui pratiquent le jazz aussi, bien sûr.
Okay, très
bien. Et qui ne sont pas forcément chanteuses, qui sont aussi instrumentistes. Bien on en sûr. Aura deux demain soir, d'ailleurs.
Super. Eh bien, Maxime, merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Merci à vous.
Bah oui, et Jazz à l'Arpe, c'est jusqu'au 8 juin.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique Clap de Julia. Un petit bel yes.
How I love being a woman.
Bienvenue dans ce deuxième épisode de Clap. Dans cette chronique, on aborde la place des femmes dans les différents genres cinématographiques. Donc aujourd'hui, on va parler d'un genre qui traite de la période du 15e au 18e siècle et qui est connu pour adapter beaucoup d'œuvres littéraires comme celle d'Edmond Rostand ou encore d'Alexandre Dumas. Alors, est-ce que vous avez deviné ?
Moi, je sais, mais c'est parce que je t'ai vu préparer.
Il s'agit des films de Cap et d'Épée.
Cap et d'Épée.
Alors, pourquoi ce nom? Eh bien, la cape et l'épée reflétaient la fonction ou l'état d'une personne. Donc l'expression « n'avoir que la cape et l'épée » faisait référence à une personne sans fortune. Donc globalement, les héros de ces films sont des représentants de la classe populaire ou des nobles sans grande fortune. Des personnages donc en rupture avec la société hiérarchisée de l'Ancien Régime, dont le seul objectif est de faire triompher la justice. Mais pourquoi alors héros et pas héroïne? Eh bien parce que dans ces films, il n'y en a pas vraiment. Comme je l'ai dit, le genre de cape et d'épée se constitue principalement d'adaptations d'œuvres littéraires, œuvres globalement écrites entre le 19e et le 20e siècle. Et là, si peu de films vous viennent en tête, c'est peut-être parce que beaucoup de livres ont été adaptés plusieurs fois. Je pense aux Trois Mousquetaires ou encore à Zorro, donc et oui, que des hommes. Donc la représentation des femmes n'était pas forcément fille folle. Effectivement, l'ambition de conserver une certaine réalité historique au sein du genre ne leur laisse pas beaucoup de place. Mais si j'en parle, c'est qu'elles se trouvent bien quelque part. Eh bien oui, avec cet archétype du héros chevaleresque, il fallait bien que ce preux chevalier ait une damoiselle en détresse à sauver ou à aimer. Donc dans Les Trois Mousquetaires, on retrouve le personnage de Constance Bonacieux, que ce soit dans les versions plus anciennes comme celle de 1921 par Henri Diamant Berger, un film muet, ou le dernier en date sorti en 2023 et réalisé par Martin Bourboulon. Donc dans ce dernier, Constance n'est autre que l'amante de D'Artagnan qu'il va secourir mais qui ne se laisse pas faire pour autant. On peut aussi citer le film Cyrano de Bergerac, sorti en 1990 avec le personnage de Roxane, ou encore plus récemment, Le Comte de Monte Cristo, sorti en 2024 avec le personnage de Mercedes. D'une manière un peu différente, on a aussi Le Masque de Zorro, sorti en 1998, qui ne met en avant une femme que sous les traits de sa fille qu'il souhaite retrouver. Zorro, d'ailleurs, est un personnage adapté de nombreuses fois au cinéma, mais son histoire ne se mêle qu'à très peu de femmes en général. Globalement, le rôle féminin dans un film de cape et d'épée est un peu couru d'avance. Elles interviennent cependant assez vite en tant qu'antagonistes. Donc comme personnage marquant dans ce rôle, on pense à Milady dans Les Trois Mousquetaires, qui est présente dans la plupart des adaptations. Et même si les femmes ne sont que peu nombreuses dans ces films, les réalisateurs tendent à réaliser des adaptations où elles sont davantage mises en valeur, comme avec Haydée dans Le Comte de Monte Cristo, qui l'aide à accomplir sa vengeance. Donc certains choisissent même de placer les femmes comme l'héroïne du film. On pense au film La fille de D'Artagnan, sorti en 1994 et réalisé par Bertrand Tavernier, marqué par son fort caractère et son humour.
Dis donc, ton message, c'était une liste de blanchisserie.
Et la conspiration, c'était pas une conspiration.
c'est exaspérant, hein. Elle veut toujours avoir raison.
Parce que j'ai raison.
On peut aussi citer le film On l'appelait Milady, réalisé par Richard Lester et sorti en 1974. On ne s'est donc pas attaqué ce soir au genre qui met le plus en valeur les femmes, mais on a bon espoir que ça s'améliore. Et peut-être que le prochain film laissera une femme incarner l'héroïne à la cape et l'épée, comme il se doit. En tout cas, c'est plutôt en bonne voie.
Merci Julia pour cette chronique fifolle.
Allez revoir Lady Oscar par pitié. Si les films vous ont déçu, les séries manga des années 70, peut-être moins, ont quelque chose à vous apporter.
Intervention très justifiée de la technique. Merci Cesse. Je crois qu'on a un petit message sur les répondeurs, non Cesse? On l'écoute?
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Coucou l'équipe de 6h20 Moni, c'est Benoît, fidèle auditeur de Syllabe de Saint-Malo. Vu qu'il n'y a personne qui laisse de message dans le répondeur, donc je me suis permis de vous laisser un message pour une info concert dans le secteur de Rennes. L'UBU organise un concert hors mur donc ce mercredi 28 mai. Prochain, donc c'est le concert de DVTR, donc un duo punk canadien très sympa à écouter. Donc si vous aimez un peu l'ambiance de Rebecca Warrior, donc Sensi Sushi, Komo Prat et tout ça, donc voilà. Et bien sûr le groupe punk féminin donc qui s'appelle le Camion Bip Bip, hein, on connaît tous avec leur titre Ouin Ouin, donc un titre que je trouve vraiment rigolo, très rigolo. Donc voilà, donc ça se passe à la ferme du Quincé, donc pour ceux les Rennaises et les Rennais qui connaissent ce lieu-là, bon bah c'est à Rennes Nord, hein, entre le centre commercial du Grand Quartier et puis bien sûr le quartier Beauregard et Bichon. Donc voilà. Donc c'est ce mercredi 28 mai, donc c'est entre 19h et 23h. Et franchement, allez-y parce que je sais pas s'il va faire beau mercredi prochain, mais bon. Allez-y quand même parce que je pense que vu que l'été arrive et que les festivals vont arriver bientôt, donc vraiment c'est sympa. Et puis bien sûr le cadre de la ferme Quincé a toujours une bonne ambiance et puis voilà. Donc voilà, c'était pour ce petit info rapide et puis je vais essayer peut-être retrouver d'autres infos pour plus tard, en cas où, si je rappelle le numéro du répondeur, et puis voilà. Bon, en tout cas, je souhaite à toutes et à tous bon courage, et puis une belle soirée, et puis peut-être à la prochaine. Hein. Je vous fais des gros bisous. Ciao.
Mais merci d'en parler, Benoît, c'est parfait. Franchement, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Parce que 6h avant minuit sera en direct de la ferme de Quincé demain pour l'UBU prend l'air. Et oui, pour une émission spéciale de 18h à 19h. Donc on compte sur toi Benoît, on est sûr que tu vas nous écouter. Même si tu y seras, passe nous faire un petit coucou. Et si vous voulez faire comme Benoît et nous laisser un message, je vous donne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Merci Cesse pour la technique et à demain à la ferme de Quincé.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.